RFI.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour, comme chaque semaine aussi, nous avons rendez-vous pour parler de football, nous risquer sur cette planète football et pour évoquer aujourd'hui encore quelques instants, et bien la CAN 2019. Elle sera l'objet d'un nouveau COMEX début janvier au Sénégal. Le président de la Confédération africaine de football nous en dira plus et vous l'entendrez sur les suites de cette décision prise à Accra de supprimer ou de rejeter du moins l'organisation programmée et octroyée. Le mot ne venait pas, octroyé au Cameroun. Olivier Pron, bonjour, vous l'avez rencontré ce matin à Paris, le président Hamad.
Oui, j'ai eu cette chance énorme, pardon. Il existe.
River Plate Campeón, le club des Millonarios de Buenos Aires, a remporté hier soir la Copa Libertadores aux dépens de son meilleur adversaire, de son frère ennemi Boca Juniors. Un match où chacun a eu sa mi-temps. Le football argentin peut-il rebondir après ce psychodrame qui aura duré un mois? Un homme en tout cas en sort grandi, c'est l'entraîneur de River, Marcelo Gallardo, surnommé là-bas Napoléon. Les Reds aux commandes de la Première Ligue, encore invaincu en championnat. Liverpool a pris la tête grâce à sa belle victoire et au triplé de Mo Salah, mais aussi grâce à la première défaite de la saison des Citizens, battue par les Blues à Stamford Bridge. Accident ou coup d'arrêt pour les hommes de Pep Guardiola? Autre question que l'on se posera dans Radio Foot. Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi Karine Galli aujourd'hui. Bonjour Karine.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis bien Bruno Constant, quand on parle de foot anglais, hein, c'est souvent Bruno qui apparaît parmi nos invités. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie.
Et puis donc, je vous l'avais dit, Olivier Pron est là, ainsi que Laurent Salerno à la réalisation. Louis Lafargue est là aussi. Radio Foot, c'est parti.
Face à tous ces rapports que nous avons reçus, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun.
Depuis cette décision du 30 novembre dernier faite à Accra à l'issue de cette du comité exécutif de la CAF, le COMEX, eh bien on ne sait donc pas où se déroulera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Constant Omari a apporté quelques éclaircissements sur le déroulé de la sélection des candidats vendredi dans Radio Foot. Et ce matin, Olivier Pron, vous avez donc rencontré le président Hamad. C'était quelques instants avant qu'il ne quitte Paris. Il était venu pour le tirage au sort de la Coupe féminine, la Coupe du Monde de la FIFA, dont on a beaucoup parlé ce week-end sur l'antenne. Il a apporté des détails au sujet de la date où sera révélé le prochain pays hôte. On écoute le président Hamad et puis vous complétez.
Moi, je ne sais même pas qui a envoyé déjà ou qui ne l'a pas. Mais je sais que, à travers mon bureau, des manifestations de candidature existent déjà. Moi, personnellement, j'avais dit 25 décembre, on aura le shortlist avec l'évaluation, le classement des pays retenus. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Je suis revenu vers Roland Berger. Moi, j'ai dit, vous avez un peu plus de temps maintenant parce que nous nous sommes décidés de se réunir en session extraordinaire, le comité exécutif, le 9 janvier, parce que nous nous retrouvons le 8 janvier à Dakar pour les awards de meilleurs joueurs africains. Et le 9 janvier, à 11h, on s'est réunis même une heure de temps. Roland Berger va nous exposer le travail qu'ils ont fait et à nous de voter ou de choisir le pays organisateur de la CAN 2019 ce jour.
Donc on connaît de plus en plus le timing.
On ne finit pas de connaître le timing, mais on voudrait savoir
on
qui.
On a des détails, oui. On devine peut-être, mais on ne sait pas encore.
Bah, en tout cas, il y a eu la tournée des popotes faite par Constant Omari vendredi. On en sait quelque chose, Annie. Il est venu chez nous, il a été dans d'autres médias, mais c'est le vice-président. Ce matin, c'est le président qui prenait la parole, d'abord avec nous, puis il est allé chez d'autres aussi, parce que faut savoir partager. Il a principalement annoncé ça, c'est la date, puisque il y a 10 jours à Accra, lorsqu'on y était, il nous avait expliqué, on ouvre un appel à candidature, et puis, avant fin décembre, vous saurez. Et puis, il a décidé finalement, alors dans sa communication, il n'est pas toujours hyper clair, parce que normalement, le 5 décembre, Donc ça c'est sûr, l'appel à candidature a été ouvert, il se clôt vendredi soir à minuit, le 14. Mais il nous a dit ce matin, bon, s'il y a d'autres candidatures qui arrivent après le 14, on les regardera quand même. Ça veut dire, en creux peut-être qu'il n'y a pas des masses de candidatures, et que pour éviter que ça fasse trop gros, qu'on donne tout ça au Maroc sans qu'il y ait d'autres candidats, ce serait bien qu'il y ait d'autres pays qui se manifestent.
Par exemple le Congo-Brazzaville.
Alors là il y a un peu de cacophonie, parce que alors je pense que Constant Marie il était de parfaite bonne foi. La CAF reçoit des lettres d'intention de la part des fédérations. Et les fédérations, elles oublient parfois que ceux qui ont les sous, c'est l'État au-dessus, et qu'avant d'envoyer une lettre de candidature, il faudrait peut-être demander du côté des ministères si on est d'accord. Alors on a eu Constant Marie qui nous a parlé du Congo-Brazzaville Annie vendredi, et puis dans la foulée, ici à RFI, avec Mme Ruth, samedi, il a joint le ministre des Sports du Congo-Brazzaville, vous l'avez entendu sur notre antenne, et lui il dit non, il n'en est pas question, pas du tout. A priori, les seuls qui se seraient vraiment là manifestés sont les Sud-Africains, mais on sait que pour eux, ce sera a priori compliqué parce qu'il y a tout un process à l'intérieur du pays, passer devant le Parlement et tout ça. On a entendu vaguement parler d'une candidature qui pourrait venir Ouganda, Kenya, Tanzanie, ces trois pays-là qui pourraient s'associer. Et puis on attend toujours que les Marocains sortent du bois. Ils sont là, on sait qu'eux sont en capacité.
Vous faites partie du COMEX, Habib Bey ?
Non, pas du tout.
Ah non, ça aurait été bien.
Mais vous serez à Dakar.
Mais peut-être, sûrement.
À Dakar, parce que le président Hamad le disait, c'est la cérémonie de remise des prix du meilleur joueur africain, notamment.
Alors, il n'était pas prévu, d'ailleurs, à l'origine, ce comité exécutif.
Hein.
Ils le font parce qu'encore une fois, il a dit « Ah oh, oui, mais après c'est Noël, on avait dit qu'on arrêterait le 26 ou le 27 décembre, qu'on aurait une shortlist, et puis finalement... » On va laisser encore un peu de temps, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on va clore les candidatures, on va quand même falloir aller voir dans ces pays-là, c'est Roland Berger, le cabinet d'audit, voir les pays, voir les besoins, voir ce qui est fait, et puis noter, quand il parle du 9 janvier, le COMEX pendant une heure, Annie, c'est pour avoir un retour de Roland Berger, mais ça va être comme un bulletin de notes. Et ils vont dire, il y a tel pays, nous on met 4 à eux, on met 3 à eux, on met 2, et après, il y aura vote, ou comme il le dit, pas forcément vote, il y aura peut-être unanimité, et boum, on désignera.
En tout cas, ça sera 5 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le coup d'envoi est théoriquement toujours donné le 15 juin.
Ça nous a été confirmé ce matin, 15 juin, 13 juillet, les dates ne changeront pas.
Alors par contre, ce qui évolue aussi, c'est ce fameux glissement, puisque la CAN 2019 du Cameroun passerait à 2021, celle de 2021 de la Côte d'Ivoire passerait à la Côte d'Ivoire justement, mais seulement en 2023. Et si le Cameroun a tout de suite dit apparemment on devrait être d'accord, voilà. Par contre, la Côte d'Ivoire reste toujours dans le silence.
Oui, parce qu'ils ont un peu plus de mal à comprendre. Les Camerounais finalement, c'est sans doute pareil du côté des Ivoiriens, c'est normal. On vous dit, vous allez organiser là, et puis tout d'un coup, on vous dit, va falloir attendre 2 ans de plus. Ils le voient pas forcément, eux, comme une bonne nouvelle. Donc, il faut, bomber un peu le torse et dire, ouais, c'est pas normal, mais finalement, les Camerounais, plein de bon sens, même les journalistes à Accra le disaient déjà, 2 ans de plus, c'est pas si mal. Il a fallu passer par les canaux officiels, et a priori, il y a une confirmation, oui, les Camerounais se dirigent vers 2021, donc ça veut dire que les Ivoiriens sont priés d'aller voir en 2023, eux aussi mettent un petit peu de temps, sauf que du côté des Ivoiriens, il y a un peu de cacophonie, c'est-à-dire que le ministre des Sports sur notre antenne la semaine dernière, les gens de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Foot, ils disent oui mais nous on n'a pas été mis au courant, et la CAF dit si, mais on n'est pas passé par vous, on a nos canaux à nous. Alors ce matin, petite mise au point, qui n'est pas gentille, non. Moi je serais à la FIF, je la vivrais mal cette mise au point, très mal.
Il a l'air un peu agacé le président Hamad.
Au lieu de remercier la CAF de leur avoir donné du temps, surtout les techniciens. Si c'était de la part du chef de l'État, j'aurais pu facilement comprendre. Parce que la politique n'est pas obligée de connaître les arcanes d'organisation d'une grande compétition. Ça démontre peut-être l'insuffisance aussi, peut-être, des responsables. Parce qu'au lieu de convaincre son chef que c'est une bonne chose, aille plutôt dans une politique politicienne pour créer des polémiques. Comment on peut construire des stades, 5 stades, en 2 ans, il y a des villes où il n'y a rien, pas d'hôtel. Donc, tout ça, c'est malheureux de la part des responsables. Au lieu d'être des partenaires, parce que la Confédération veut relever le football africain, surtout protéger ses joueurs professionnels. Je suis sûr que les grands responsables ivoiriens vont écouter leurs responsables dans le cadre de la préparation de la CAN, et ils vont se rendre compte que c'est la CAF qui avait raison.
Voilà. C'est ce qu'on appelle un tacle appuyé, Habib, vous êtes d'accord avec ça ?
Bon non, mais c'est une remise en question. Est-ce que lui a conscience de ce qui se passe aussi dans chaque pays? Est-ce que aujourd'hui ils sont prêts, à, comme on l'a dit, sur cette CAN, à maintenant beaucoup plus de clubs à avoir ces stades prêts pour 2021? Personne ne le sait en fait, en quelque sorte. Je pense que là où les Ivoiriens ont un problème, c'est que lorsque vous empruntez de l'argent, on vous demande de le rembourser à une certaine date, et que forcément repousser l'événement de 2 ans, ça veut dire que les recettes n'arrivent que 2 ans après. Mmh. C'est peut-être aussi ça la problématique de la fédération ivoirienne, dans cet aspect de Coupe d'Afrique qui va glisser de 2 ans pour chaque pays. Pour le Cameroun, c'est différent, ils sont pas prêts. Donc eux, ça les arrange en quelque sorte d'y aller en 2021, puisque de toute façon, ils n'auraient pas été prêts pour 2019.
Mais là, vraisemblablement, les Ivoiriens n'aurait pas été prêt non plus.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, de ma position, si Hamad sait que justement les Ivoiriens ne sont pas prêts pour 2021, lui comprend que cette CAN glisse de 2 ans. Après, pour les Ivoiriens, c'est autre chose, parce que c'est encore une fois un aspect économique.
En tout cas, Olivier, ce qu'il a confirmé aussi, le président Hamad, c'est que le Cameroun continuait dans les qualifications de cette prochaine CAN. Il reste en course, mais
oui,
en tant que,
en gros,
en se qualifiant sur le terrain.
Il confirme que le comité exécutif de la CAF fait une entorse à son propre règlement. Et lui, il le justifie en disant c'est le COMEX qui fait le règlement. Bon, ben voilà. Donc on fait un peu comme on veut, parce que le règlement, encore une fois, disait si on vous retire la CAN, vous êtes suspendu pendant 2 ans, vous êtes suspendu les 2 prochaines CAN. Il ne veut pas cette double sanction pour les Camerounais, parce qu'il dit bah, c'est nous qui décidons de leur donner 2 ans de plus, donc on veut pas les sanctionner sportivement. Donc ils sont en course. Il y a ce fameux Cameroun-Comores au mois de mars, le 22 mars. Si les Camerounais battent les Comores, ils seront qualifiés. Est-ce que les Comoriens vont l'entendre de cette oreille? Eux, ils
ou recourir aller au tribunal, au TAS.
Oui. Voilà, donc ça c'est... en tout cas, lui, il s'accommode parfaitement de cet article 92. Le COMEX a décidé et c'est nous qu'on est les chefs.
On en a parlé la semaine dernière avec un représentant de la Fédération des Comores qui évidemment était totalement contre cette possibilité. Donc
évidemment,
ça va encore créer des nouveaux problèmes, parce que les autres fédérations vont forcément s'opposer à cette décision.
Je sais pas si les Comores auront un soutien énorme. Je pense que ça c'est autre chose.
En tout cas, les Comores, de toute façon, il nous l'a dit la semaine dernière, s'opposeront à ce changement de règlement.
Après, il faut voir vis-à-vis du TAS quel recours ils ont. Est-ce que la CAF dit le règlement, c'est nous qui le faisons, et est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'ils ont rencontré des avocats pour se blinder de ce côté-là? Affaire à suivre. Mais la CAF est un éternel feuilleton. On le sait tous.
Et justement,
même le feuilleton Guinée.
Voilà. J'allais juste vous dire Guinée 2025. Alors, si on ne sait pas pour Côte d'Ivoire 2023, alors Guinée 2025, on ne sait pas.
Mais comme vous y allez, Annie, comme vous êtes pressé.
C'est trop loin.
N'oubliez pas. L'Afrique nous écoute. La Guinée, il ne veut pas se prononcer. C'est trop tôt, dit-il, il faut qu'on réexamine tout ça. Pour l'instant, laissez-moi, dit-il texto, gérer 2019, 2021, 2023, 2025, on verra, mais la Guinée est priée de patienter pour le moment en salle d'attente.
Voilà, et nous aussi on patiente pour vous informer, pour vous donner les dernières informations au sujet de cette CAN 2019. Merci beaucoup.
Je peux y aller?
Oui, ça y est.
J'aurais fait d'arriver.
Vous êtes révoqué. Merci beaucoup.
Ça repart. Oh, Benedetto est passé. Le face à face. Dario. Benedetto. Faites une statue. Benedetto est un immense joueur.
Fernandez, Nacho Fernandez.
Oh, la détention. Oh, Nacho Fernandez. Lucas Braton, les héros de la finale, sont là pour le retour. Oh, un but magique dans cette finale historique.
Et oui, la joie de la victoire de River Plate avec nos confrères d'RMC Sport. River Plate, donc champion d'Amérique du Sud. Et c'était la fête des Hinchas à Buenos Aires, Buenos Aires. Ils se sont massés comme toujours, comme à chaque fois quand on gagne en football, au pied de l'obélisque qui se trouve au cœur de la capitale pour commémorer donc leur Copa Libertadores. Fête aussi d'ailleurs à Madrid, à la Puerta del Sol, pour ceux qui avaient fait le déplacement à 10 000 km du Monumental, le stade de River Plate. Victoire donc 3-1 des Millonarios sur les Chineses. Héroes para siempre. C'est ce que dit le journal Olé, le journal de sport. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour.
Alors vous faites parmi de, vous êtes dans le cœur des millionarios, des millionnaires, vous bien sûr.
C'est sûr, oui, je ne vais pas le cacher. Oui, ouais. Oui,
c'était. Alors on va y revenir à ce match parce que les joueurs, alors c'est les deux clubs les plus populaires d'Argentine, hein, ce River Boca. L'Europe s'y est intéressée parce que tout d'un coup l'Europe s'est retrouvée à organiser ce match et plutôt bien. Il n'y a pas eu d'incident ni à Madrid ni autour du stade de Bernabéu, mais surtout il y a eu ces reports, on va dire. Alors au début c'était à cause de l'eau qui tombait sur Buenos Aires, ça avait décalé d'un jour la finale aller et puis la finale retour. Eh bien c'était à cause des violences. En tout cas, épilogue donc hier soir, bien loin de l'Argentine, mais quand même un super classico. Est-ce que pour vous, ce match a tenu ses promesses, Alejandro Valente ?
Disons que, à part la première mi-temps où les deux équipes semblaient un petit peu tétanisées par l'enjeu et probablement aussi avec une préparation étrange, parce que les deux équipes n'avaient pratiquement pas joué depuis un mois. C'est assez incroyable d'aborder une telle finale.
Oui, la saison était terminée.
La saison n'est pas terminée, mais les deux équipes avaient demandé à reporter leur match des championnats. Donc, ils avaient joué deux matchs chacun en un mois, et la plupart du temps avec des joueurs remplaçants pour éviter les blessures. Donc, on trouvait quand même... Je pense que c'est difficile d'aborder une telle finale dans ces conditions, mais les buts de Boca en fin de première mi-temps a un peu libéré tout le monde. Et ensuite, je pense que River a mieux maîtrisé la suite de la rencontre. Gallardo a mieux maîtrisé les temps de ce match et les remplacements. Et à la fin, River a gagné logiquement.
Bruno.
Et c'est vrai que c'était la première mi-temps, c'était clairement une purge. Hein. C'était tout ce qu'on n'aime pas dans le football argentin, que parfois l'ambiance des stades argentins, même l'ambiance des stades argentins, peut masquer. Et la beauté du football argentin, c'est justement ces ambiances, le Monumental, la Bombonera. Et là, on n'avait pas tout ça. Et quelque part, le fait d'être délocalisé, bah, peut-être on avait l'impression de voir du football argentin brut. Est-ce que c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est assez moyen, le niveau assez moyen. Et il fallait un but pour débloquer tout ça, pour que ça, l'enjeu s'en aille et qu'on joue vraiment pour essayer de gagner et pas pour perdre.
Surtout que le match aller, c'était 2-2, donc tout le monde était à l'égalité.
Ça avait été très bien, le match aller en plus. Et là, après la deuxième période, ça a été un festival et la fin de match et notamment la prolongation. C'est là où ils sont forts pour des joueurs qui n'ont pas joué quasiment depuis deux mois. L'énergie qu'ils ont mis, même Boca à 10 contre 11 pour essayer d'arracher ce match nul en toute fin.
Même à 9 contre 11.
C'est extraordinaire.
Donné, parce que Gago est sorti blessé.
Ouais. Et puis surtout, avec des occasions jusqu'à la dernière seconde. Un suspense
poteau, là.
Incroyable.
Voilà, ouais.
Le poteau de Boca, oui.
Tristesse. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'avait rien d'historique, en fait. Parce qu'elle n'était pas en Argentine.
Ouais.
La problématique, c'est que ça devait être un événement exceptionnel. Et pour moi, ce qui s'est passé fait que c'était un événement, en fait, bah, il l'est pas. Il l'est pas parce qu'on était à 10 000 km du Monumental. Il l'est pas parce que je pense que si je suis un joueur de Boca Junior, je me sens lésé. Parce que mine de rien, moi j'ai tenu mes engagements au match aller, même s'il y a eu quelques petits problèmes. Alors que le match retour, c'est ce que personne veut voir, en fait, dans le football mondial aujourd'hui. Et que River est pas passé loin, en fait, de perdre ce match sur tapis vert.
On dit même que la réponse sur le fond du TAS n'a pas encore eu lieu, hein. Ça serait le pire.
Il faut se dire aujourd'hui, alors j'accable ni River, ni Boca, parce que en soi, je connais pas le contexte, mais ce qui s'est passé est quand même très très grave. On a reporté ce match à plusieurs reprises, il y a eu des blessés. Et pour moins que ça, certaines équipes ont vu aujourd'hui des matchs perdus. River s'en sort très très bien que ce match soit délocalisé ailleurs. Alors après, c'est le contexte argentin, c'est pas forcément propre à River. Je pense que dans ces problèmes, il y avait des supporters de Boca, il y avait des supporters de River, et c'est pas identifié le problème juste sur River. Mais
quand est-ce que vous avez trouvé comme dans un contexte comme ça, une équipe avait eu match perdu
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des moments graves, en fait. Le problème aujourd'hui, je dis que River s'en sort bien. Je dis pas qu'il aurait fallu disqualifier River, je dis juste que River s'en sort bien au vu du fait qu'ils n'ont pas été capables de garder une sécurité autour
mais
de cet événement.
C'était dans la rue, hein, les...
Oui, mais malgré tout, c'est le bus des joueurs et que...
Il y a eu
et
des blessés chez les joueurs pendant plusieurs semaines.
On est censé aujourd'hui assurer la sécurité des joueurs qui arrivent dans
c'est le rôle de la police. Dans la rue, en ville, à plusieurs centaines de mètres du stade, c'est pas le rôle du club.
Oui, mais si on part de ce principe-là, dans ces cas-là, aujourd'hui, on va tout permettre, ce qui se passe 20 minutes du stade. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, avec l'Olympique de Marseille. Je me suis rendu au Parc des Princes et sur le chemin on s'est fait caillasser, on a eu des baramines qui sont passées à travers le bus et on a joué ce match-là, on l'a perdu, et je peux vous garantir qu'à 90%, et je cherche jamais d'excuses, je sais pourquoi on l'a perdu. C'est qu'à un moment donné, il y a un tel perte d'adrénaline, et on peut pas me dire qu'aujourd'hui tous ces joueurs-là étaient satisfaits de jouer ce match-là à Madrid.
Justement, c'est pour ça que le match n'a pas eu lieu à l'époque, et River a soutenu Boca dans cette démarche.
Oui, oui, mais moi je trouve qu'elle a perdu cette saveur, c'est-à-dire qu'on attendait un événement, un double événement exceptionnel, et je trouve que l'événement au match retour, oui, il a lieu parce que River l'emporte et parce que la physionomie du match sur les 45 dernières minutes et ce qui suit est assez passionnel, tout ce qu'on veut. Mais moi, aujourd'hui, je trouve que c'est dommage que cet événement ait fini comme ça.
Moi, Karine, je suis totalement d'accord avec Habib. On en a fait énormément parce que cette finale retour s'est jouée finalement en Europe, parce que c'était la première fois que les deux clubs s'affrontaient en finale. Mais pour moi, c'est inconcevable. Ce match n'aurait jamais dû avoir lieu. Moi, je suis ni pour Boca, ni pour River. Mais à partir du moment où c'est la finale de la Copa Libertadores qui doit se jouer en plus sur deux matchs, donc une fois à domicile pour chaque équipe, et que ce n'est pas respecté, je comprends pas comment on peut accepter une situation comme ça. On a beau nous expliquer qu'en Espagne, c'est la population argentine la plus représentée après l'Argentine en elle-même. C'est inconcevable. Pour tout autre match, j'aurais trouvé ça complètement grotesque. Et je trouve que c'est également grotesque hier ce qui s'est passé. Après, il y a eu un match, il y a une victoire, mais... Moi, si je veux aller voir un Boca River ou un River Boca, c'est pas à Bernabéu. Je veux dire, pour moi, ça n'a aucun sens.
Bah justement, c'est pour ça que du côté de River, on a plaidé l'iniquité de cette situation, parce que on joue le match aller à Boca devant les supporters de Boca et le match retour à 10 000 km devant des supporters mixtes. Donc, en toute logique, si les stades de River avaient dû être interdits, logiquement, River aurait dû choisir ou proposer un autre stade et disputer ce match avec son public, ça me paraît.
Ouais. Mais River, dans ces conditions-là, en fait, n'a rien à choisir. Le problème, il est là, Alejandro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était au Monumental, c'est là que les joueurs de Boca ont été agressés. Et que lorsque vous êtes River, là, à ce moment-là, vous faites tout petit et vous demandez pas quoi que ce soit et vous revendiquez pas quoi que ce soit. Aujourd'hui, à un moment donné, il y a un événement qui se tient sur un match aller et sur un match retour. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut.
Il est faussé à la moitié. Ouais.
La police ou les responsables du club ou quoi ont failli, puisque de toute façon, pour moi,
c'est dans la rue.
Ouais, je suis d'accord, Abby, mais après, il s'est quand même écoulé un mois entre les deux matchs, enfin entre le fait que ça a été et du coup, malgré tout, Boca a eu le temps de se remettre un petit peu de ce truc.
Mais tu te remets pas de ça. Regarde Dortmund, tu prends aujourd'hui, tu poses la question à Marc Bartra quand
ils
montent dans un bus.
Ils ont joué aussitôt, le soir même ou le lendemain.
Mais pensez qu'aujourd'hui, il y a une forme de moment ou de temps qui permet en fait aux gens d'oublier et de passer à côté. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais encore une fois, c'est mon ressenti.
Moi, je pense que le sportif doit passer au-dessus de ça malgré tout. Je suis d'accord, c'est compliqué, mais à un moment, il faut jouer le match. Et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les supporters des deux camps. Et effectivement, le fait d'avoir joué à Bernabéu, quelque part, c'est un peu avantagé Boca, un tout petit peu. Parce que s'il se retrouve dans un stade qui est à 100% pour River, je pense, vu le niveau des deux équipes, il y a différence de niveau entre les deux équipes, je pense que River l'emporte assez facilement. Et là, quelque part, ça rééquilibre un peu les forces. Et c'est peut-être ce qui a donné un peu une belle finale retour. Mais après, il fallait le jouer ce match. Je suis d'accord, c'est grave, mais à un moment donné, il faut jouer le match, il faut passer à autre chose.
Moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas jouer. Je dis juste que ça aurait pu être plus grave pour River.
Bien sûr.
Et que ça a entaché un peu cette finale retour. En tout cas, c'était la quatrième Copa Libertadores Alejandro. Il l'avait déjà remportée en 2015. Et celle-là, ce qu'on sait aussi, c'est que ça referme un cycle, puisqu'il n'y aura plus de finale aller-retour. C'est ça.
Oui, ça va être bizarre parce que c'est vrai qu'on va jouer dans des stades neutres. C'est la coutume ici en Europe, mais en Amérique du Sud, c'est pas du tout pratiqué. Donc on verra comment ça se passe. De toute façon, on verra jamais une telle finale. Ça, c'est sûr. Et c'est un peu ce qui donne, malgré les réserves d'Habib, cette espèce de joie un peu inexplicable du côté des River, c'est que c'est, pour eux, c'est un peu la finale définitive, quoi. C'est la finale qu'on reverra pas et donc qu'on pourra jamais rejouer.
C'est pour ça qu'ils l'ont appelé la finale del siglo, hein, c'est ça. En tout cas, on a vu quand même plusieurs personnages, mais l'homme du match, ça a été Juan Fernando Quintero, qui est le joueur colombien. Il a déjà participé à deux coupes du monde, c'est un international, hein, un cafetero. Mais surtout, Alejandro, c'est lui qui a mis le deuxième but décisif, parce que c'est le but pendant les prolongations, alors que les deux équipes sont 1-1.
Bah, disons que c'est un joueur, on l'a remarqué tout de suite, qui apporte toute sa fantaisie, tout son sens du dribble.
Il est rentré effectivement fin de match.
Et qui évidemment a permis à River tout d'un coup de faire valoir un petit peu sa supériorité technique. Et en plus, il a marqué un but magnifique dans la prolongation, alors qu'on s'acheminait doucement vers des tirs au but. Et c'est vrai que c'est remarquable. C'est un joueur qui est passé par Rennes d'ailleurs, ouais. Donc qui
n'a pas laissé un grand souvenir. Qui était un petit peu en surpoids à Rennes.
Non, mais il a parfois fait des très belles choses, mais Montagnier savait pas vraiment comment l'utiliser.
Exactement,
à l'époque.
Exactement. C'est vrai qu'il avait montré beaucoup de bonnes choses.
C'est
un petit peu en surpoids, mais surpoids.
D'avoir
mais...
un tel joueur comme ça à Rennes et ne pas savoir comment l'utiliser. Mais c'est... bon,
ouais, on peut se poser des questions. Dernière chose autour de ce match, l'entraîneur quand même de cette équipe de River. Parce que si Boca n'a pas démérité, c'est vrai que lui, c'est le héros dans le sens où il gagne sa deuxième Copa Libertadores avec le club en trois ans. Et surtout, il gagne sa troisième puisqu'il en avait gagné une en tant que joueur. Marcelo Gallardo, passé, ben, on le connaît en France aussi, il est passé par Monaco, il est passé aussi par le PSG. Mais surtout, il est une légende là-bas déjà, dit-on, parmi les meilleurs entraîneurs. On le surnomme El Muñeco, hein, le poupon.
Napoléon aussi.
Mais aussi Napoléon. Pourquoi Napoléon Alejandro.
Parce qu'il gagnait toutes les batailles. Et c'est vrai qu'à River, on n'a pas l'habitude de ça. River est plutôt une équipe qui... Moi je, depuis 60 ans, je suis fan de cette équipe et c'est vrai que j'ai souffert longtemps et ces genres de situations. River est l'équipe qui, généralement, perd les gros matchs, perd les grands rendez-vous, gagnait très peu de matchs de coupe. Et depuis que Gallardo est arrivé il y a 4 ans, tout a changé. Il gagne toutes les finales. Il est vraiment...
9 trophées.
Il y a une force collective, une espèce de confiance en soi qui est incroyable et qui va les amener à aller à la Coupe du Monde des clubs dans quelques jours pour défier d'abord l'espérance des Tunis, mais surtout, espère-t-il, le Real Madrid.
Ils sont entraînés sur leur pelouse.
C'est un entraîneur qu'à mon avis, on voit très très vite en Europe, je pense.
Que là, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps qu'on l'annonce.
Ouais, mais je pense que ça va arriver.
De la sélection.
C'est pas possible qu'on n'aille pas chercher cet entraîneur. Et moi, je pense à un club qui aujourd'hui a un entraîneur, mais à mon avis, qui va peut-être pas rester, c'est du côté du Real Madrid. Ils ont certes un Argentin à la tête de l'équipe pour l'instant, mais on voit bien que c'est très compliqué. On pensait que c'était Lopetegui, mais en fait, c'est pas lié
ça
à l'entraîneur.
Ça fait un grand saut quand même.
Hein?
Ça fait un grand saut quand même. Passer de River Plate directement au Real Madrid.
Je pense qu'il est capable de supporter la pression. Monaco aurait pu venir le chercher avant Thierry Henry.
Oui, mais il y aurait une logique parce qu'ancien joueur de Monaco. Enfin, ça aurait été plus.
Ouais, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer ces entraîneurs qui réussissent, qui portent leurs équipes si haut en Amérique du Sud et peut-être à la Coupe du Monde des clubs. Peut-être qu'il se passera quelque chose.
En général, ça n'a pas souvent marché ces gens de grève. Bref, on pense au Real Madrid, à Vanderlei Luxemburgo, par exemple. Enfin, c'est...
Après, il est quand même entraîneur de la meilleure équipe d'Argentine, si je ne me trompe
absolument.
Pas. Donc, ça aide aussi pour...
On a vu notre ami Carlos Bianchi, qui avait connu tant de succès à Boca. Il n'a pas connu la même réussite en Europe, ni à la Roma.
C'est un football particulier. Hein. C'est un peu comme le football brésilien. Alors, c'est même si c'est différent, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes comme ça imprégné dans ce football-là, et que vous devez partir en Europe, c'est un football qui est complètement différent, il faut se réadapter, et c'est peut-être pas simple. Après, c'est vrai qu'on en parle partout en Europe, on a même cité son nom parfois à Marseille lorsqu'on pensait à un entraîneur. Ce qui est sûr, c'est qu'il a l'état d'esprit, et puis cette culture que vous avez en Argentine pour supporter ces pressions dans des grands stades, dans des stades comme l'Olympique de Marseille où il y a de la pression, en Argentine, lui, il connaît.
Non, mais laissez-le à River, il y est.
Justement, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le président hier en sortant du match. Il a dit, bon, alors, par rapport aux ultras et tout, on reste avec le même problème qu'avant le match, mais par contre, on a gagné quelque chose, c'est que Gallardo va rester. Alors, bon, il reste au moins jusqu'au Mondial des clubs.
Ça, ouais. c'est pas bien difficile. Après, bon, il y a les championnats qui vont se poursuivre jusqu'au mois de juin.
Mais on en a beaucoup des entraîneurs sud-américains qui font florès quand même en Europe. Ouais. Alejandro Valente, bon évidemment, je pense à Diego Simeone, l'Argentin. Martino était passé assez vite au Barça, mais dans un contexte trop trop compliqué. Pochettino quand même. On a aussi l'entraîneur qui fut de Manchester City, son nom m'échappe. Il est peut-être pas
Pellegrini,
pardon. Mais on avait.
Il était un peu passé par l'Argentine,
par l'Espagne aussi. Avant d'aller à City.
Ouais. Ouais. On a parlé même un peu de Gabi Ainsa qui pourrait aussi revenir en Europe à une époque avec Nantes qui s'était un peu positionné, Marseille.
Donc finalement, Gallardo, pourquoi pas?
Ouais, le plus tard possible.
Alejandro, je veux le garder du côté de l'Argentine. Et les joueurs, j'imagine, quand ils vont toucher le sol, ça va être de nouveau le délire à Buenos Aires.
Il y a Piti Martinez, l'auteur du troisième but, qui part à Atlanta. Bon, ça paraît bizarre, mais il va partir
c'est
au mois
de
janvier.
C'est bien les MLS, Alejandro.
Ouais.
C'est plus près d'Amérique du Sud.
Et il y a Ezequiel Palacios qui va probablement partir au Real Madrid. Et peut-être d'autres joueurs vont finir par être sollicités.
Palacios de Boca.
Bon, vous avez remarqué, la moitié des joueurs ont 35, 36 ans, donc ceux-là vont passer dans
comme
le club
Carlos
de retraité, probablement. Et les très jeunes, oui, effectivement, ils risquent d'être sollicités, même Quintero, à mon avis, va pas rester longtemps.
Non, mais là, je disais aussi, ils vont faire la fête, quoi, avec les Argentins, finalement, là, on va se retrouver
Pas tout de suite, parce qu'ils vont partir directement aux Émirats.
Ah, ils vont directement à Abu Dhabi.
Ça commence le 13.
C'est dommage, ils vont mettre du temps à le fêter. Pourtant, ils les attendent,
les supporters. Ça viendra.
Bon. Gracias, Alejandro Valente, millonario. Tout le monde le sait maintenant, désormais.
Good hit, and Salah's in for the rebound. Liverpool take the lead. Steve Cook had a nibble at him, and Salah's put it into the bottom corner. And Liverpool double their lead. Salah doubles his tally for the day. Lallana. And it's the battle between Salah and Cook. And Salah is going to get his hat-trick here. Is he? Yes! He wasn't going to let it go away. Marvelous Mo Salah.
Et revoilà Salah, et revoilà les Reds. Liverpool a pris les commandes de la Première Ligue à l'issue de la 16e journée de championnat. L'équipe de Jürgen Klopp est la seule invaincue désormais du côté de l'Angleterre, hein, bien sûr, puisque sa première place, elle la doit aussi à la défaite des Citizens. Mais avant d'en venir aux Citizens, restons quand même sur Liverpool qui ouvrait cette 16e journée et qui l'a fait bien par une nette victoire à Bournemouth. 4-0 grâce à son pharaon retrouvé, mais aussi les statistiques. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ces statistiques, Bruno Constant, mais les statistiques disent que c'est leur meilleur début de saison depuis quelques temps. 13 victoires en 16 matchs et 10 clean sheets, comme on dit, c'est-à-dire 10 victoires sans encaisser de but.
C'est ça qui surprend le plus avec Jürgen Klopp. S'il ne nous avait pas habitué à ça depuis qu'il est arrivé à Liverpool, c'est un jeu quand même très porté vers l'avant. Il y a toujours eu des problèmes défensifs qu'il a résolus avec de l'argent, avec des recrutements,
avec un gardien,
Alisson. Qui est en train de s'affirmer en provenance de la Roma, avec Van Dijk qui avait stabilisé tout ça depuis le mois de janvier dernier. Et là, effectivement, ils ont vraiment un bloc équipe qui est très impressionnant, qui est beaucoup moins flamboyant que la saison passée. Il n'y a plus les fortes pressions à haute intensité, les pressings qu'ils faisaient sur certains matchs, notamment en souvenir des matchs contre City. C'est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus en gestion et c'est beaucoup plus efficace pour l'instant.
En première ligue,
bien sûr.
Parce qu'en Ligue des Champions, ils encaissent des buts. Et
bien
c'est
sûr.
Justement ce côté imprévisible qui faisait leur force, qu'il est un petit peu moins cette
Exactement.
Saison.
Et c'est une nouvelle façon de jouer pour eux. Et donc, en première ligue, effectivement, ça marche bien.
Ça marche. Et du coup, alors avant qu'on parle de la Ligue des Champions, mais est-ce qu'on les voit, Habib, finalement, en prétendant enfin au titre? Parce qu'on se souvient de l'épisode, il y a plusieurs saisons où ils avaient failli. À l'époque, il y avait encore Suarez, Coutinho
et Steven Gerrard, la
fameuse, la saison 2000.
De Sacco.
Saison 2014 et où finalement ça s'était pas concrétisé sur le fil, on va dire. Et puis depuis, avec Jürgen Klopp, c'est toujours dans le haut du tableau, mais on n'y arrive pas. Est-ce que cette année, c'est la bonne, selon vous?
Dans cette configuration-là, oui, puisqu'ils prennent moins de buts. Mm-hmm. Le problème de Liverpool sur les 4-5 dernières années, c'est qu'ils ont toujours pris beaucoup plus de buts que City, beaucoup plus de buts que Chelsea, qui eux ont été champions. Donc dans cette configuration-là, oui, puisqu'ils sont capables justement de marquer des buts avec Mohamed Salah et ils sont beaucoup plus solides défensivement. Donc à partir de là, ils ont été intéressants dans leur recrutement puisqu'ils ont ciblé leur problème. C'était le gardien, Mignolet. Ils ont pris un grand gardien qui est Alisson aujourd'hui. Van Dijk est arrivé aussi l'année dernière et il a stabilisé cette défense qui était un problème lorsque vous aviez Lovren et je crois Joe Matip, si je ne me trompe pas. Donc à partir de là, oui, ils peuvent prétendre être champions d'Angleterre. Lorsque vous êtes invaincu en première ligue, que vous marquez des buts et que vous en prenez plus, forcément, ils sont de grands prétendants à la victoire finale. Mais il y a City qui, pour moi, reste au-dessus.
Voilà, parce que si City s'est incliné pour la première fois, ils sont quand même très, 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 très forts. Quoi,
Karine, vous aussi, Jürgen Klopp, vous pensez que c'est peut-être enfin l'année des Reds?
J'ai plus envie d'aller vers Manchester City. En plus, ils ont une pression telle Liverpool parce qu'ils l'attendent depuis tellement longtemps, ce titre de champion. Et puis Manchester City, on va en parler. Mais sur le contenu du match, bravo à Chelsea. Et Dieu sait que je suis contente que Chelsea ait gagné. Mais notamment en première mi-temps, City était largement au-dessus. Et il y a des absences aussi du côté de City. Donc City me paraît être quand même un cran au-dessus, malgré cette première victoire face à Chelsea, ça remet pas
première
du
défaite.
Tout cette première défaite à Stamford Bridge, ça remet pas du tout en question leur force et leur suprématie, je pense, en Angleterre.
Alors justement, les Reds, vous y faisiez allusion, Habib, parce que c'est vrai que avant la défaite, moi je me souviens à Paris, quand on évaluait les chances du Paris Saint-Germain de passer cet obstacle et tout, on se disait c'est peut-être le meilleur moment pour Paris de prendre ces Reds. Et on avait vu Lovren d'ailleurs, si je me trompe pas, en défense centrale ce jour-là. Donc, est-ce que malgré tout, il y a deux faces et deux versions de Liverpool?
Oui, mais ce qui est assez étrange, même ce qui s'est passé à Paris, je trouve que Jürgen Klopp s'est trompé déjà sur sa composition d'équipe. Le fait de mettre Joe Gomez à droite au lieu d'Alexander Arnold, je trouve qu'il a déstabilisé un petit peu cette équipe. Il a vite compris qu'il ne gagnerait pas la victoire du milieu de terrain, c'est-à-dire sur la possession. Donc il avait considéré que à ce moment-là le PSG serait plus fort. Il avait voulu densifier justement cette défense et il a joué un petit peu à contre-emploi de cette équipe de Liverpool. Donc ça c'est un problème et je pense qu'il va s'en servir pour la suite. Il savait aussi qu'il aurait son destin en main face à Naples, donc même en perdant contre le PSG, ça c'était aussi important dans la construction de son effectif. Mais c'est sûr que ce sont deux équipes différentes. Mais la Première Ligue, il faut le dire aussi, et on le voit dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est très intense, mais ne jamais oublier que le niveau Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus en termes de pression, c'est un niveau au-dessus sur l'aspect technique, ça va beaucoup plus vite. Je ne dis pas que la Première Ligue, même si je le pense, est moins forte globalement que ce qui se passe en Ligue des Champions.
Ah mais donc, c'est forcément, enfin tous les championnats sont moins forts que la Ligue des Champions.
Voilà, donc à partir de là, ce que reflète Liverpool en Première Ligue, lorsqu'ils arrivent au niveau Ligue des Champions, en tout cas cette saison, puisqu'ils sont un petit peu à contre-emploi par rapport à l'année dernière, bah, ils se rendent compte que c'est un petit peu plus compliqué.
Après, il y a la théorie qui est en train de monter du côté de Liverpool, c'est qu'on se dit peut-être que Liverpool serait un peu moins concentré sur Ligue des Champions.
Ça serait un peu inconscient.
Et qu'ils ont tous
cette année,
la
ça serait
priorité,
le championnat.
Ça serait le championnat. C'est compliqué
de
le dire maintenant, parce qu'on est tellement loin de la ligne d'arrivée en championnat, et qu'on sait qu'il y a la période des fêtes qui est très compliquée, que derrière il y a la période de janvier-février qui est très compliquée aussi. C'est difficile de l'attester, mais effectivement.
Moi, j'y crois pas un instant, Bruno.
Mais moi non plus.
J'y crois pas
plus.
Un instant.
Moi non plus. Mais
c'est tellement
mais
risqué. Klopp, les joueurs que tu as à ta disposition.
Mais Klopp, non, mais il y a une chose différente vraiment avec la saison passée, c'est que Klopp est vraiment en mode de gestion, de maîtriser davantage leurs matchs, les temps forts et surtout les temps faibles, et d'arriver à s'imposer en championnat sans trop se livrer. Et c'est ce qu'ils font depuis le début de saison pour en garder un peu sous le pied. Parce que la saison passée, ils avaient souffert énormément en novembre, décembre. Ils avaient 15 points.
Mais ils sont allés en finale de Ligue des Champions.
Bah oui, mais les dernières équipes ont calculé.
La finale de Ligue des Champions, malgré tout, même s'ils font un parcours exceptionnel, on n'est pas sûr de répéter deux fois. C'est pas forcément une question de régularité. Il y a le tirage, il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est compliqué de répéter ce genre de performance.
Oui, mais ils ont maîtrisé toutes les équipes qu'ils ont sorties de cette Ligue des Champions avec l'ADN Liverpool, avec l'ADN
Jürgen Klopp. Sur un fil. C'était sa passe ou sa casse.
Ouais,
c'était le va-tout de Klopp.
Ouais, non,
je
pense que c'était une équipe qui était déséquilibrée. Mais voilà. Ce déséquilibre faisait sa force.
Exactement.
Aujourd'hui, je pense qu'il veut une équipe un petit peu plus équilibrée. On l'a vu d'ailleurs contre Paris.
Ouais.
Où t'as l'impression qu'ils sont un petit peu plus bloc bas. Où on a un Salah, un Sadio Mané, un Firmino qui ne pressent plus comme ils le faisaient auparavant. Mais malgré tout, tu te dis, c'est dommage quand t'as des joueurs comme ça et que tu décides de plus presser dans leur transition. Rappelle-toi, c'était une équipe qui allait très très vite vers
bien
l'avant.
Sûr, bien sûr.
Rappelle-toi du match l'année dernière où ils vont presser City. Personne n'avait vu Liverpool ou une autre équipe presser City jusqu'à Ederson, jusqu'à Kyle Walker et tous les défenseurs qui composaient cette équipe. Aujourd'hui, t'as l'impression qu'ils sont un petit peu plus bas, qu'ils acceptent plus ou moins la domination et qu'ils veulent procéder en contre. Mais t'es tributaire à ce moment-là beaucoup plus de tes individualités, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, même si t'avais Sadio Mané, Salah qui marquait des buts. Tu as bien vu que sur le match du PSG, t'as Mané qui est au niveau, Firmino et Salah ne le sont pas, et tu gagnes pas ce match.
Après, la grande différence, c'est qu'ils ont encore leur destin entre leurs mains en Ligue des Champions, et que les premiers mots que dit Klopp après la défaite face au PSG, c'est quoi? Il en appelle à Anfield. J'en appelle à Anfield.
Mais parce qu'il le savait avant
le
match.
Il veut répéter l'énorme match qu'il y a eu face à Dortmund il y a deux ans, où il sait qu'avec Anfield derrière lui, ils sont capables de tout Liverpool.
Mais
sur un match, ils peuvent assurer leur qualification.
Mais bien sûr, mais je pense qu'il le sait même avant le match. Dans la préparation de son match, quand il te sort sa composition et qu'il te met Joe Gomez, tu sais qu'il est là pour prendre un point. Il se dit ce point-là, c'est ce qui va me servir quand je vais jouer Anfield contre Naples. Quand t'es Liverpool.
Et c'est pas un bon gestionnaire là-dessus.
Quand t'es Liverpool, demain je suis entraîneur, je me dis, si j'ai mon destin en main à Anfield contre Naples, même si c'est Naples, rappelle-toi comment ils ont fait exploser City. Donc ils sont capables de faire exploser tout le monde. Mais ça, ils le savaient dans sa composition d'équipe. Ce qui est assez étrange, c'est ce déséquilibre que tu trouves entre l'année dernière Est-ce que tu vois cette année de Liverpool? Et pourtant, ils sont invaincus en première ligue.
Je pense que c'est totalement volontaire. C'est ça qui, on le saura après en février-mars quand les compétitions se jouent, mais je pense que c'est volontaire et que c'est un pris parti pour en mettre un, garder un peu sous le pied.
En tout cas, ce qui était sûrement pas volontaire, c'était la mauvaise passe, on va dire, de Mohamed Salah, le pharaon, hein, qui avait eu tant de mal après sa blessure en finale de Ligue des Champions. Aussi, je pense que la Coupe du Monde avait laissé sans doute des traces. En tout cas, tel un phénix, le voilà revenu. Le voilà donc auteur de 3 buts avec en plus une grande entente de nouveau retrouvée avec Firmino notamment qui fait des passes décisives. Salah en grande forme et bien évidemment ça fait plutôt plaisir à Klopp.
Nobody should be surprised about that, hein, so.
Personne ne devrait être surpris par ça. Son désir de marquer des buts est flagrant et c'est vraiment très bien pour nous. J'ai néanmoins entendu que son premier but était hors jeu. Loin de moi le fait de vouloir en parler avant que les gens n'en fassent trop. Pour finir, c'est juste brillant ce que Salah a encore fait. Et j'aime cet état d'esprit.
Est-ce que c'est le retour de Salah au top niveau, Habib?
Mais je sais pas. Moi, je sais pas s'il a disparu réellement, parce que quand on regarde les statistiques de Mohamed Salah,
on l'a pas vu à Paris.
Non, on l'a pas vu à Paris. C'est vrai qu'il a été moins bien, mais lorsqu'on regarde ses statistiques, c'est 10 buts, c'est ça?
Oui, 10 buts. Il a 3 buts seulement de son.
Voilà.
Au même stade de la saison dernière.
Donc non, je me fais pas de soucis pour Mohamed Salah, parce que je pense que comme vous l'avez dit, il a eu une blessure compliquée en finale de Ligue des Champions, et je dis bien compliquée parce que il faut savoir que lorsque vous êtes un attaquant comme lui, aussi vif, centre de gravité très très bas, où vous vous servez souvent de vos bras pour éliminer vos adversaires, que vous chutez très souvent puisque vous êtes soumis à ces contacts, un petit peu comme Neymar ou Mbappé. Regardez Mbappé en ce moment avec son épaule, vous vous rendez compte qu'il joue plus du tout de la même façon, parce que mine de rien c'était une blessure assez grave pour Mohamed Salah. Il a vécu les événements de la Coupe du Monde où on l'a un petit peu théâtralisé avec sa sélection, où l'ont emmené dans des endroits où il voulait pas être, et je pense que ça l'a marqué.
Oui, il y a eu des gros problèmes suite à la Coupe du Monde.
Et puis
avec sa fédération.
Se remettre d'une saison où vous êtes Ballon d'Or africain, vous avez été en finale de Ligue des Champions avec
meilleur
une déception
joueur de
à la
première
clé,
ligue,
une déception aussi en Coupe du Monde, il faut se relever de tout ça. Donc il a pris un petit peu de temps pour digérer.
Et il est regardé différemment maintenant.
Il est regardé différemment.
Ligue, il est marqué différemment. D'ailleurs, Klopp a changé un peu de poste avec lui. Il aligne de plus en plus souvent en pointe pour lui donner un peu plus de liberté. À Bournemouth, il a joué en pointe. Et il a un peu plus de liberté de ses mouvements. Bon, sur le premier but, il est hors jeu, parce qu'il faut quand même le rappeler quand même.
On le voit très bien en ralenti.
Mais je pense que Mabib, qu'il n'était pas parti, en tout cas pas parti très très loin. Parce que dans les prises de balles, il montrait toujours les mêmes qualités. Il avait un petit peu de manque dans la finition, mais il n'était pas très très loin du niveau de la saison passée.
En tout cas, un beau triplé donc, et voilà, les Reds en tête de classement. Il y avait aussi un autre match, des Rouges qui gagnent donc du côté de Bournemouth, et puis des Bleus Ciel qui perdent. Les Sky Blues se sont inclinés chez les Blues au cours du week-end, une défaite 2-0. Alors pour une équipe qui restait invaincue, apparemment c'est toujours très difficile d'aller jouer à Stamford Bridge, Karine.
En tout cas, sur l'ensemble du match, on va dire que Chelsea mérite cette victoire. Après, quand on regarde les 45 premières minutes, c'était City qui était largement au-dessus. Ils ouvrent la marque juste avant la pause, mais c'est
les
contre
blues.
Le cours du jeu. Après, ce qu'a fait Sarri, finalement, ça a très bien marché. Il nous a refait un petit peu du Conte avec pas de vrai neuf. Conte l'avait déjà fait avec Hazard, notamment l'an dernier face au Barça en Ligue des Champions. Là, il a fait la même si le dispositif était pas même, ce qui continue à jouer en 4-3-3, mais Chelsea en deuxième mi-temps était bien meilleur et au final c'est une victoire méritée. Ils se sont fait bouffer en seconde période, City. Après, on n'est pas habitué à ce que sur une première mi-temps, quand ils aient autant la balle et qu'ils aient autant de situations, ils n'arrivent pas en concrétiser. Voilà, ils ont un peu trop joué à la baballe en première mi-temps. Ils n'ont pas été tueurs.
Je trouve qu'il manque de cynisme en fait, Manchester City, qui sont très beaux à voir jouer, qui sont fantastiques. Il y a du mouvement, il y a plein d'occasions. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils réussissent pas pour l'instant en Coupe d'Europe. Je trouve que ça manque de cynisme et d'efficacité clinique devant le but. Là, au bout d'un quart d'heure, il y a deux occasions énormes. Ça peut faire 2-0. Si c'est Agüero, si c'est un attaquant bien meilleur que Sterling qui n'est pas un avant-centre, le match peut être plié au bout d'un quart d'heure. Et ils ont encore ce défaut-là, et ils l'ont souvent eu en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ça pardonne pas. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Et c'est ce qu'a dit Guardiola, il a répété après. Il dit qu'en Ligue des Champions, par exemple, tout le monde dit qu'on est la meilleure équipe d'Europe. C'est ce qu'avait dit, je ne sais plus qui, David Luiz après le match. Il dit, mais non, on n'est pas la meilleure équipe d'Europe. Si on était la meilleure équipe d'Europe, on serait au moins en finale de Ligue des Champions. Mm-hmm. Et on n'arrive pas à passer ce cap-là. Et ils s'en rendent compte.
Mais si tu te poses la question aussi, le problème de City aujourd'hui, c'est les blessures récurrentes d'Aguero.
Ça commence à peser.
C'est les blessures récurrentes de Gabriel Jesus aussi.
De Bruyne.
En plus
de Bruyne, qui est blessé. Et quand tu n'as pas deux joueurs comme ça, c'est-à-dire
qui sort sur
la baguette et un la finition. Je pense que si demain t'as un Mohamed Salah à City qui enchaîne les matchs comme il le fait avec Liverpool, vu le jeu de Manchester City, je pense que le défi pour Guardiola aujourd'hui, c'est d'avoir un attaquant comme il l'avait par le passé avec Lionel Messi, comme il l'a eu avec Samuel Eto'o, comme il l'a eu avec Lewandowski du côté du Bayern, qui est capable à la fin de l'année de vous rendre une copie et de vous dire, hey, j'ai joué 55 matchs ou 60 matchs. Et là, je peux vous garantir que dans l'équipe de Guardiola, vous regardez tous les attaquants qu'il a eu à sa disposition, à la fin, ça finit entre 35 et 40 buts. Ce qui n'est pas le cas d'Aguero depuis 2 ans. Je crois que c'est 28 ou 30 buts, si je me trompe pas. La problématique qu'il peut avoir dans des situations comme celle-ci, ou comme contre Lyon, on se rend compte que contre Lyon, c'est quand même la porte qui marque son coup de pied arrêté. Bon, Aguero aussi sur ce corner, mais il lui manque peut-être ce moment.
C'est Gabriel Jesus, c'est pour ça qu'il l'avait pris il y a un an et demi. Il avait commencé, c'était un feu d'artifice.
Il avait même
repoussé Aguero sur le banc. Et puis il s'est blessé, et puis il a eu du mal à confirmer. Et puis effectivement, il se repose toujours sur Aguero, je suis d'accord avec toi, qui est absent quasiment 2 mois par saison.
Il y a souvent beaucoup de blessés quand même dans cette équipe de City. Là, on pense encore à Mendy et tout ça. Il y a quand même des éléments clés qui lui manque à Klopp et à Guardiola. Et c'est vrai qu'il doit faire.
Après, il a quand même l'effectif le plus riche d'Angleterre. Il doit être capable de. Quand Tamares sur le banc ou Bernardo Silva.
Mais
Sané,
ce ne sont pas des buteurs. C'est-à-dire ces joueurs-là, tu es sûr qu'ils vont te rendre en fin d'année. Ok, ils ont marqué peut-être 8, 10 buts. Sterling a fait une saison où il en a marqué peut-être une vingtaine, 18, 20. Si tu veux aller gagner la Ligue des Champions, il te manque un mec qui en marque 35, 40, quoi. Comme dans tous les grands clubs aujourd'hui en Europe. Regarde ça là, l'année dernière. C'est 32 buts. Et mine de rien, tu vois Liverpool. Ils sont que 4e du championnat d'Angleterre l'année dernière. Donc
Après c'est ses choix aussi, s'il avait voulu son vrai buteur, parce que à un moment il en voulait même plus d'Aguero, finalement Aguero a évolué et il l'a réintégré dans ses plans. S'il avait voulu un vrai buteur, il l'aurait eu. Il a le chéquier, bah,
il était chercher Gabriel Jesus.
Oui,
il
a fait Gabriel Jesus, il est arrivé en Europe, c'était jeune joueur, tu peux pas Guardiola. Prendre Jesus et dire ça va être lui mon buteur tout de suite quand il arrive.
Mais Guardiola dans toutes ses équipes, il a souvent relégué l'avant-centre ou le buteur sur le banc pour mettre un faux neuf.
Oui.
Et au début, à City, il a mis Kevin De Bruyne en pointe. Il mettait Aguero sur le banc. Parce qu'il veut du mouvement, parce qu'il aime bien ce côté faux neuf qui permet de créer des espaces dans le dos. Mais je sais pas si c'est lié au numéro 9, mais effectivement, il y a un manque d'efficacité devant.
Et puis en face, t'avais quand même Chelsea et Sarri,
Chelsea,
il faut en parler.
Super deuxième période.
Parce que Sarri.
Parlons de Sarri, justement. Ouais. Abid, il y a une chose qui marquait un peu tous ceux qui commentaient ce match, c'était le désir de Sarri de changer de position. N'Golo Kanté qui marque son but, un deuxième but depuis le début de saison, si je me trompe pas.
Ouais.
Deuxième but de première ligue, c'est pas un buteur. Mais il a voulu le repositionner. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il a fait dans ce repositionnement, parce qu'il reste quand même au milieu de terrain.
Oui, mais alors, moi, ce qui me dérangeait avec N'Golo Kanté...
C'est pas lui qui l'a repositionné, en fait. C'est parce qu'il a mis Jorginho devant la défense et que ça change l'organisation
de l'équipe. Et moi, je trouve qu'N'Golo Kanté...
Je
trouve qu'N'Golo Kanté est très performant lorsqu'il est devant la défense.
Tout le monde en parle.
Qu'il doit aller gratter des ballons, qu'il est avec un deuxième milieu défensif. Je trouve qu'on a un N'Golo Kanté qui n'a pas de restrictions, qui est vraiment dans l'énergie, qui arrive à couper toutes ses transitions et qui gratte un nombre incalculable de ballons. Et si vous regardez en Angleterre les statistiques, le nombre de ballons récupérés et les tacles réussi par N'Golo Kanté sur les autres années était beaucoup plus important que cette saison où il est plus ou moins un milieu relayeur, on lui demande de faire le jeu. Alors en quelque sorte, Sarri le réinvente, il veut lui donner d'autres qualités. Peut-être que ce complément en tout cas de poste pour N'Golo Kanté va faire de lui dans un an, parce qu'il aura joué sentinelle, parce qu'il aura joué aussi en tant que milieu relayeur, un milieu encore plus complet, c'est-à-dire un milieu qui aura peut-être un petit peu plus de stats, un milieu qui sera capable d'apporter box-to-box, même s'il le faisait déjà, mais il était très cantonné à récupérer des ballons. Donc c'est une nouvelle façon de voir le football pour N'Golo Kanté. Moi, je préfère lorsqu'il est vraiment dans un rôle de milieu défensif.
On en reparlera dans un autre Radio Foot International. Je suis désolée, c'est le gong de la fin de cette émission déjà. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Radio Foot. Merci Karine Bruno et Habib. Merci aussi à Laurent Salerno, à la réalisation aujourd'hui, et puis à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer cette émission. Et on vous donne rendez-vous évidemment demain pour parler de football et notamment le PSG.